Salut à tous, merci d'être si fidèles à Baleine sous Gravillon. Je viens vous cueillir une minute, pas plus, avant le début de votre épisode, pour vous proposer tout simplement de nous soutenir. Offrez-nous une minute au moins de votre temps. Vous savez qu'on est gratuit, sans pub et disponible pour tous sur toutes les applis d'écoute. Clairement, on a besoin de votre aide pour continuer à vivre. Et il y a plusieurs moyens simples de nous aider. 1. Vous pouvez nous faire un don unique ou récurrent, quelques balles par mois, quelques euros par mois, sur les liens indiqués dans le descriptif de cet épisode, sur HelloAsso ou sur Tipeee notamment, il y en a d'autres. 2. Vous pouvez installer le moteur de recherche Lilo au lieu d'utiliser Google qui vous exploite, vous le savez. Et le résultat, c'est que chaque recherche génère ce qu'on appelle des gouttes et pour nous, c'est des petits sous. Voilà, pour vous en plus, c'est gratuit, donc c'est pas difficile. Encore une fois, tous les détails sont dans le descriptif de cet épisode. Moi et plusieurs membres de l'équipe de BSG, on propose maintenant des fresques de la biodiversité, on propose des conférences, ben, parlez-en dans votre entreprise, dans votre asso, dans votre boîte quoi. Et évidemment, on vient avec tout le savoir-faire de Baleine sous Gravillon vous raconter le vivant, tout simplement. 4. On peut aussi créer vos podcasts ou en tout cas vous apprendre à faire les vôtres. On fait des formations pour ça et bien sûr, contactez-nous pour en savoir plus. 5. On cherche un partenaire pour tout l'écosystème de Baleine sous Gravillon. Et il y a différentes modalités. On en cherche un pour l'ensemble, on peut en prendre un pour un podcast en particulier, ou ce qu'on fait de plus en plus, on peut en prendre un pour une série d'émissions. Évidemment, c'est négatif, c'est moins cher à chaque fois. Moins bon marché, j'ai envie de dire, parce qu'on n'est pas si cher. Donc voilà, vous pouvez devenir coproducteur de ce qu'on fait. En tout cas, ben, voilà, prenez conscience que ce qu'on fait est certes gratuit, mais on a besoin de vous pour continuer à exister. Moi, ça fait 3 ans que je fais ça sur mes fonds. Et là, ben, évidemment, je suis obligé de faire autre chose hein, pour vivre, sachant que France Culture ne suffit pas à me faire vivre. Voilà. Pour nous joindre, c'est simple, contact@baleinesousgravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Salut Rémi.
Salut Marc.
Ravi de te retrouver pour parler de l'ours polaire. Donc là, on arrive à un aspect important, c'est l'estimation de la population des ours. C'est l'autre grand point qui fait débat. Vraiment, les gens sont pas d'accord. Alors moi, j'ai lu que, à l'heure actuelle, tu vas me confirmer ou m'infirmer, mais on parle d'autour de 20 000 ours, c'est ça, en tout?
Les derniers recensements officiels qui datent de mars 2017 donnent un point moyen de 27 000 individus.
27 000?
Voilà, c'est ah oui. Ça. Donc, ce qui est surprenant, ce qui peut surprendre, parce qu'il est supérieur au chiffre officiel précédent, qui est plutôt aux alentours de 20-21 000. Pour différentes raisons. Alors déjà, parce que il y a une recherche accrue, une recherche aussi qui est plus homogène sur les 19 sous-populations. Donc, si on les compte plus et qu'on les compte mieux, évidemment, on est beaucoup plus précis. Donc, ça ne veut pas dire que la population a augmenté. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que la population actuelle d'ours polaires est bien supérieure à celle qu'on a connue dans les années 70. Dans les années 70, on était à moins de 10 000 ours polaires. Là, on était vraiment avec une espèce extrêmement menacée. Grâce à la protection généralisée depuis 1976, donc avec une chasse qui est très très réglementée, eh bien la population a pu remonter jusqu'à donc des valeurs comme à peu près 27 000. Peut-être qu'il y en a un peu plus, 30 000, 31 000. On ne sait pas trop parce que dans les 19 sous-populations, il y a 9 sous-populations sur lesquelles on a très très peu d'informations.
Là où les scientifiques et même tous les commentateurs ou naturalistes s'écharpent un peu, sont pas d'accord, c'est quant aux causes du déclin éventuel des ours, y compris par le passé. Je rentre pas dans le débat, mais il y en a qui disent que c'est à cause du fameux réchauffement climatique et on a tous en tête ces image célèbre de cet ours complètement décharné qui serait une espèce de symbole du réchauffement climatique. Mais il y a un certain Morten Jorgensen qui lui pense que c'est plutôt la chasse qui menace l'espèce. Il raconte qu'en tout, il y a 1000 ours qui sont tués chaque année, donc ça paraît à la fois beaucoup ou pas beaucoup, enfin bref, tu l'as dit plusieurs fois, on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Enfin, rien qu'en Alaska et au Canada, 750, apparemment les Inuits vendent le droit, le permis de tuer cet ours à des chasseurs de trophées, ils en gardent 500 pour eux. Est-ce que tu peux faire un peu le ménage là-dedans? Qu'est-ce que t'en penses?
Alors déjà, pas en Alaska, parce qu'il n'y a plus de chasse à l'ours polaire en Alaska, donc ça, il est intégralement protégé, donc il peut être encore chassé au Canada et au Groenland par les autochtones, et au Canada, il peut arriver que des villages, des associations de chasseurs vendent quelques droits à des chasseurs de trophées, effectivement. Il faut savoir que ça, c'est assez marginal. Ce qui n'est pas marginal, c'est évidemment la chasse par les autochtones, alors qu'au Canada, ils ont des quotas qui sont mis en place grâce à la collaboration entre des scientifiques et puis les chasseurs qui, eux aussi... Faut voir que c'est un problème extrêmement compliqué, parce que c'est un problème culturel, au-delà même de la population des ours. Et on a aussi des populations autochtones qui ont besoin de conserver leur culture et la connaissance de la banquise. Et la chasse y participe, et la chasse à l'ours polaire y participe. Et en plus, comme les populations autochtones, on les a souvent mis de côté, on leur a jamais demandé leur avis, la chasse et la chasse à l'ours polaire, en plus, devient une espèce d'appropriation culturelle. C'est-à-dire que je suis inuit aussi parce que je continue à chasser l'ours polaire. Donc, au-delà même du côté commercial, purement économique, que pourrait rapporter une peau d'ours polaire, même si maintenant ça ne vaut plus rien une peau d'ours polaire, parce qu'il n'y a plus de marché, mais du point de vue culturel, c'est extrêmement important. Et c'est aussi pour ça que la chasse continue. Donc, ça veut dire que les écologistes qui ont beaucoup tapé sur la tête des Inuits, pour la chasse aux phoques en particulier dans les années 80, ont fait l'effet inverse. C'est-à-dire que maintenant, ils ont tendance un peu à se refermer sur eux-mêmes. Et à se dire, moi, je chasse l'ours polaire parce que je suis chez moi et je fais ce que je veux. Donc ça, c'est un vrai problème. Et la chasse aux trophées, c'est un petit peu la même chose. Il faut savoir que quand il y a eu les grandes campagnes contre la chasse aux phoques, eh bien, les Inuits ont perdu énormément d'argent. Et ils ont perdu aussi leur autonomie dans certains villages. Et donc, ils ont vendu des droits de chasse pour compenser cette perte. Donc là, il faut voir aussi les dégâts collatéraux de certaines actions qui sont parfois un peu musclées de certains écologistes, qui ont aussi des dégâts collatéraux sur les populations locales. Je pense qu'on ne prend pas assez en compte le droit de ces populations à s'exprimer elles-mêmes.
D'accord, mais tu m'as rien dit sur le climat. Donc, tu sais, on avait fait des épisodes avec Chris de Bardia, qui est un ami, qui est un guide animalier dans différentes régions du monde, y compris au Spitzberg et tout ça. Et lui, il avait bien insisté dans les épisodes qu'on a fait. Et pour lui, qui lit aussi beaucoup, comme toi, de choses. Alors, c'est sans doute pas un aussi grand expert que toi. Mais bref, lui, il nous a expliqué que c'est pas des espèces de légendes, ces mythes que tout le monde connaît. Cette fameuse image d'ours décharné, ce déclin dû au réchauffement climatique. Chris me disait que c'est d'autres raisons, en particulier la chasse. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le réchauffement climatique menace aussi les ours?
C'est indéniable que le réchauffement climatique menace les ours, mais pas de la façon de voir un ours famélique. L'ours famélique, c'est du grand n'importe quoi et c'est de la communication. Parce qu'on peut lui faire dire n'importe quoi. Et quand on regarde dans ce qui s'est passé avec ces fameuses photos qu'on a vues sur tous les réseaux sociaux, si on regarde entre autres sur une des premières photos, eh bien, c'était marqué en tout petit que l'ours avait été blessé par un morse. Et après, on s'est parti en vrille et c'est parti comme une preuve du réchauffement climatique. Mais un ours, ça peut mourir aussi. Donc, c'est pas forcément l'ours décharné. Par contre, ce que l'on sait, c'est que si la période sans banquise s'allonge année après année, ce qui peut être le cas actuellement, eh bien, ce sont les femelles qui vont donner naissance, qui, au lieu de donner naissance à 3 petits, vont en donner que 2. Par exemple, et peut-être que 1 dans les décennies à venir. Donc ça va toucher directement. On verra pas nécessairement d'ours faméliques, mais par contre, le taux de reproduction va baisser. Donc, il est évident qu'il faut surtout pas prendre pour argent comptant une photo qu'on prend hors contexte. Mais par contre, la menace est réelle. Mais les menaces sur l'ours polaire sont multiples. Il y a la population, le dérangement, l'exploitation minière, l'exploitation pétrolière. Donc, les menaces sur l'ours polaire sont multiples et ne se résument pas au réchauffement climatique.
D'accord. Alors, il y a cette histoire quand même. Il y a apparemment 1000 individus qui sont prélevés chaque année. C'est quand même beaucoup pour une population qui, grand max, atteint 300. Et puis, il y a du braconnage en Sibérie. J'ai lu aussi 300 par an.
Alors, il y a du braconnage. Le problème, c'est que le braconnage, et c'est pour ça que les chiffres, il faudrait aussi avoir les sources, comme d'habitude. Il n'y a pas de marché de peaux d'ours polaire. La dernière fois qu'il y a eu une vente aux enchères de peaux d'ours polaire au Canada, les peaux sont reparties sans aucun preneur, alors qu'elles étaient à des tarifs extrêmement bas. Donc, il n'y a plus de marché. Donc, je pense que c'est pas vraiment rentable d'aller chasser l'ours polaire et d'aller braconner.
Mais tu ne nies pas la réalité des braconnages en Russie des ours.
Il y a certainement du braconnage, mais pour qu'il y ait du braconnage, il faut qu'il y ait aussi un marché. Et actuellement, je pense que le marché n'existe plus. Sachant qu'en Russie, l'Union soviétique a été le premier pays à protéger l'ours polaire à partir de 1956. Donc, c'est-à-dire 20 ans avant les autres pays arctiques. Et celui qui serait pris à tuer un ours polaire, avec le braconnage, eh bien, il aurait des gros soucis parce que là-bas, c'est un animal extrêmement respecté, on va dire. Donc, voilà, on cherche toujours des causes et mettre les gens qui sont sur le terrain, les autochtones, les habitants. Mais il faut aussi se méfier. Il faut savoir qu'un village inuit, au bout de la rue, il y a la banquise. Il y a pas de McDo, il y a pas tout ça, et les seules possibilités de vivre et d'exister même socialement, eh bien c'est la chasse. Et il faut aussi leur garder un petit peu ce droit. Alors peut-être que c'est excessif dans certains endroits, peut-être qu'il faut refaire des quotas, mais je pense qu'il faut se mettre autour de la table et pas alors forcément toujours leur taper dessus, quoi.
Tu as dit que c'est au Canada qu'il y en avait le plus, 15 000 sur les 25 ou 30. Ouais. J'ai lu que au Nunavut, il y avait un quota de 500 ours par an, dont 50 vendus à des chasseurs de trophées. Est-ce que ces chiffres sont encore exacts ?
Oui, c'est assez exact. Je pense que le quota n'est pas atteint actuellement. Il y a aussi, et je le sais parce que je l'ai vécu, il y a aussi des gens qui essayent de vendre sous le manteau des peaux d'ours polaires. Là, c'est, on peut appeler ça du braconnage, mais ça marche pas bien. Et je pense qu'il y aura plus de chasseurs d'ours polaires avant qu'il y ait plus d'ours polaires, quoi.
D'accord, Rémi. Bon, on en a fini avec toute la partie, je dirais, comment dire, scientifique, biologique, comportement de l'ours. Est-ce que tu veux rajouter des choses sur notre ours polaire? Il y a évidemment 1000 choses qu'on n'a pas racontées. Peut-être qu'on pourrait peut-être brièvement parler de sa gestation. On n'a pas du tout parlé des mamans et du fait qu'elles s'enterrent avant de mettre bas, tout ça. Enfin, s'enterrent dans la glace.
Dans la glace, non, enfin, ou dans le permafrost, donc dans le sol gelé en permanence. Donc oui, c'est tout à fait intéressant de voir comment, et j'ai eu la chance, le privilège de voir de nombreuses femelles avec des petits au mois de février. Donc c'est vrai que donc la gestation est de 55 jours, donc la croissance de l'embryon n'est que de 55 jours, c'est l'ours polaire. Un petit ours polaire, ça pèse 600 à 800 grammes à la naissance. Et quand il sort de la tanière, 3 mois plus tard, il pèse 12 kilos. Et où est-ce qu'il a pris ces 12 kilos? Eh bien, sur les réserves de la maman. Et c'est là qu'on voit la fragilité de cette espèce, si les femelles ne mangent pas à leur faim, c'est directement l'alimentation des petits qui est en cause. Il faut savoir aussi que si la femelle ne va pas assez vite sur la banquise se nourrir au mois de mars, eh bien, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va manger ses petits. Donc c'est vraiment la survie de l'espèce qui est en jeu si la femelle n'a pas assez de réserve, quoi.
L'ami Chris de Bardiam avait signalé aussi que les ours accumulaient des métaux lourds et toutes sortes de pollutions et que parfois la mère tuait ses petits avec un lait qui devient mortel à cause de la pollution. Est-ce que tu confirmes ?
Alors ça, je pense qu'il s'est un petit peu avancé parce que moi, j'ai jamais vu de publication et en tant que chimiste de formation, je me suis un peu penché sur la question. On sait que les ours polaires, comme ils sont au sommet de la chaîne alimentaire, ils accumulent énormément de polluants, effectivement, et entre autres des polluants qui sont lipophiles, c'est-à-dire qui se fixent sur la graisse, et comme un ours polaire mange essentiellement de la graisse, donc il capte énormément de ces polluants, et entre autres les métaux lourds, le mercure, le chrome, et aussi donc les molécules qu'on appelle les PCB, donc qui étaient avant dans les transformateurs
électriques.
Ouais. Dans les transformateurs électriques. Donc on sait qu'ils accumulent. Par contre, la mise en évidence de pathologies liées à ça, moi j'ai rencontré plusieurs personnes qui travaillaient sur le sujet, n'a jamais été vraiment prouvé, quoi.
Mais ça se passe chez d'autres espèces, donc pourquoi ça...
Ça se passe chez d'autres espèces, oui, mais justement, à titre d'exemple, les ours, on sait, ont des capacités assez étonnantes à stopper l'action de choses qui seraient pour nous mortelles. Actuellement, il y a des tests à Clermont-Ferrand en particulier, de muscles d'ours face à des radiations, à des irradiations. Et on sait que le muscle d'ours résiste aux irradiations, lorsque nous, on est incapable de faire. Donc, le modèle de l'ours par rapport aux autres espèces est un peu différent, parce qu'on sait que les ours ont, par exemple, on a trouvé des ours polaires avec des gros taux de mercure, extrêmement importants, qui n'avaient développé aucune pathologie, alors que chez d'autres espèces, il y aurait des pathologies liées à ça. Et donc, chez les ours, c'est particulier. Pourquoi ? Pour l'instant, on n'en sait rien. Mais ils ont un peu tendance à bloquer tout ce qui peut se passer lié à ces problèmes de métaux lourds.
Cher Rémi, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur l'ours polaire avant qu'on referme ce chapitre, cet épisode ?
Je pourrais me parler pendant des heures de l'ours polaire.
Mais là, tu dois prendre un train pour tout dire à nos auditeurs. Je dois te libérer.
Donc, effectivement, l'ours polaire, ce qui est intéressant, c'est que c'est une clé. Il faut pas qu'il cache non plus, pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt liée au réchauffement climatique. L'ours polaire n'est certainement pas l'espèce la plus menacée. Il y a des oiseaux, entre autres, le goéland sénateur en particulier. On a perdu 80% de sa population au Canada. Il y a d'autres espèces d'oiseaux. Il y a aussi des grands bouleversements dans l'Arctique où le réchauffement est 3 fois supérieur à celui que l'on connaît chez nous.
Mais... C'est clairement une espèce étendard comme la baleine. Il y a des espèces qui comptent sur les doigts d'une main comme la baleine, le panda, l'ours polaire,
dauphin, oui.
Qui sont éminemment emblématiques. Tu parles d'un animal géopoétique dans ton beau livre qui s'appelle L'ours, l'autre de l'homme chez Actes Sud. Là. Qu'est-ce que tu peux... Pourquoi ce statut ?
Pourquoi ce statut? Parce que, étonnamment, alors que, par exemple, le loup, il y a des zones où on veut tuer les loups, chez nous, on veut tuer les ours bruns, alors qu'on en a pas beaucoup, l'ours polaire ne veut, il y a personne qui veut le détruire, quoi. Donc, il y a vraiment une empathie vis-à-vis de cet animal. Il faut savoir qu'il y a d'ailleurs, qu'il y a eu une étude qui a été faite en 2009 au Canada, qui démontrait que chaque ours polaire, annuellement, avait une valeur de $450,000. Ce qui est gigantesque. Parce qu'il y a beaucoup d'empathie, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à mettre de l'argent pour se dire on va sauver l'ours polaire. Alors évidemment, si on vous demande 50 € pour sauver l'ours polaire, celui qui vous dit ça, c'est un voyou, parce que on peut pas sauver l'ours polaire si on protège pas globalement le climat de la planète.
J'ai pas compris ton histoire de $450,000. Les gens sont prêts à donner à hauteur de $450,000.
C'est-à-dire que si on cumule ce que la valeur d'un ours, les Nord-Américains aiment bien donner une valeur à quelque chose.
Ah, mais là, tu parles des services écosystémiques ou
Et donc il y a la chasse, il y a le tourisme, et les services écosystémiques, effectivement, mais aussi l'empathie qu'il dégage. Et l'essentiel de ces $450,000 est lié à l'empathie que l'ours peut dégager. Et si on fait la même chose, par exemple, sur le beluga, qui est pourtant un animal fort sympathique, qui a toujours le sourire, eh bien, on va peut-être trouver $90,000 ou $100,000. Et donc, l'ours polaire, tout le monde lui veut du bien. Et le problème, c'est qu'il est trop utilisé. Il faut savoir que dans les programmes de recherche actuellement au Canada, eh bien, ils hésitent à mettre le moindre dollar, même dans certains cas, ils ne mettent plus aucune financement sur la recherche sur l'ours polaire, parce qu'il a été tellement usé et abusé comme symbole qu'il y a un côté politique et géopolitique trop important derrière l'ours polaire. Donc, à un moment donné, il faut l'oublier un peu comme symbole du réchauffement climatique. Il y en a bien d'autres, mais c'est vrai que si on met le morse comme symbole du réchauffement climatique, qui est peut-être plus menacé que l'ours polaire, c'est beaucoup moins sexy pour faire une couverture de magazine, quoi.
Sur ce constat, comment dire, à la fois inquiétant et important, s'achève notre épisode sur l'ours. On n'a pas tout dit sur l'ours, on y reviendra notamment sur des questions plus culturelles. On n'a pas parlé de Knut, ce petit ours célèbre du zoo de Berlin. On n'a pas dit mille choses sur les Inuits, et on le fera dans des épisodes qui sont entièrement dédiés aux aspects culturels de l'ours, et ils sont légion. On n'aurait largement pas le temps là de le faire en 2-3 minutes à la fin d'un épisode, donc on fera un épisode là-dessus. Pour l'heure, je te remercie pour toutes tes lumières, Rémi, c'était passionnant.
Merci Marc.
On sent que t'en as sous la semelle, et moi je suis très impatient de te retrouver, parce qu'on n'a pas fini. Il faut qu'on parle de tous les ours bruns, de toutes les sous-espèces d'ours bruns, y compris des nôtres dans les Pyrénées. On l'a pas fait dans nos épisodes à dessein, parce qu'on doit se revoir pour faire tout ça. Donc je te remercie d'avoir pris vraiment ce temps, je te remercie beaucoup pour ta patience, tous tes éclairages, toutes tes lumières, c'est vrai que t'es un témoin privilégié. Je te laisse rentrer à Fontainebleau tranquillou, rejoindre ta famille, et puis je te donne rendez-vous à la prochaine pour continuer notre grande saga sur les ours.
Merci Marc, à bientôt.
Merci Rémi, salut.
C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement. Il suffit par exemple d'utiliser le moteur de recherche solidaire Lilo. Ainsi, chacune de vos recherches sur Internet générera des gouttes qui seront reversées au projet de votre choix, comme Baleine sous Gravillon par exemple. Vous pouvez par ailleurs vous abonner à nos podcasts comme d'habitude, partager les liens, devenir adhérent de l'association BSG ou encore faire un don sur Hello Asso ou sur Tipeee. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. À bientôt.